Ben oui, comme chaque jeudi, on va parler environnement, bien entendu, et aujourd'hui, je reçois Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste, coordonnateur de projet également au COBALI. Si vous connaissez pas le COBALI, eh ben, sachez d'abord que c'est un organisme sans but lucratif, et eux, ben, ils travaillent à la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. J'essaie d'aller trop vite, ça sert à rien. Parce que c'est pas tout. C'est pas juste la rivière du Lièvre, c'est la rivière Blanche également, et le ruisseau Pagé. Allô, Pierre-Étienne?
Salut Patrick.
De quoi on parle aujourd'hui?
Ben, on va faire un peu de chimie aujourd'hui, imagine-toi, vu que c'est ta force.
Ah non! Ben, c'est pas ma force pis c'est pas ma faiblesse. J'en ai jamais fait de ma vie. Fait que d'après moi, c'est pas moi qui va scorer aujourd'hui. Je vais te laisser ce bout-là.
Super. Ben, en tout cas, on va essayer de comprendre un peu mieux des propriétés des lacs et des cours d'eau.
OK.
Premièrement, je vais vous parler de la fameuse transparence de l'eau.
La transparence de l'eau, d'accord.
Ben oui, tout simplement. Avec la transparence, ben premièrement, ça varie selon certains paramètres, là, dont la quantité de matière en suspension.
Ah, OK. Moi, j'allais dire s'il fait soleil ou si c'est la nuit. Mais non, c'est pas ça.
Fait que les matières en suspension, dans le fond, c'est des petites particules là, qui sont transportées dans l'eau.
Ouais.
OK. Puis qui proviennent surtout soit des rejets là, de nos activités humaines ou de la perte de sol qui est due à l'érosion.
OK. Donc, un petit peu comme quand il y a de la poussière dans l'air ou quand il y a du smog ou tout ça, mais pour l'eau.
C'est ça, donc ce qui réduit la transparence. Si on prend le cas du sable,
ouais.
C'est facile. Là. Le sable, on sait que c'est des grosses particules, donc ça a tendance à descendre assez rapidement dans le fond de l'eau, ce qui fait que dans les endroits où il y a du sable beaucoup, ben l'eau est généralement claire.
OK.
Quand on est dans des sols plus argileux, là, par exemple, l'eau est plus brouillée parce que l'argile, c'est fait de particules très, très, très fines.
Oui.
Puis ça a tendance à flotter puis à rester dans l'eau.
Puis ça se dépose pas rapidement, là.
Exact, surtout si l'eau est en mouvement. Fait que, ben, dans la région, on en a, là, des grands secteurs où le sol est argileux, là, entre autres le long de la Lièvre. Fait que dans ce cas-là, ben, c'est normal que l'eau est un petit peu plus trouble naturellement.
OK. Donc, mettons, si on va en Outaouais, à Montréal, mettons, en Abitibi, là, on va aller dans ce qui est proche, c'est assez argileux. Là. Les petites rivières peuvent être troubles, mettons.
Ben oui, ça peut ressembler même à du lait, là, carrément.
À du lait?
Oui, carrément, dans certains endroits.
C'est touchant.
Parce que quand c'est très argileux. Fait qu'évidemment, ben, nos activités, souvent, là, les activités humaines, ça empire ce phénomène-là.
Ouais.
Mais il reste que, bon, ben, y a une variabilité, là, le type de sol qui est quand même naturel.
OK.
Après, ben, y a tout ce qu'on appelle les éléments qui sont dissous dans l'eau. Là. C'est là qu'on tombe plus dans la chimie, parce que là, on parle de choses qui sont invisibles.
OK, dissous. Si tu étais en ce moment avec Carl Champagne ou avec André Léonard, il te ferait un jeu de mots de monnaie, mais moi, j'irais pas là pantoute. OK, fait que moi, la dissolution, je connais ça pas beaucoup. Là, tu sais, je vais penser à quand tu mets du sel dans l'eau puis que ça disparaît, mais quelque part, ça disparaît pas. On le voit juste plus à l'œil, mais c'est encore là.
Ben, c'est en plein ça. Puis dans l'eau, là, parmi les substances dissoutes qui jouent sur la transparence, entre autres, ben, on a tout ce qui vient de la décomposition de la matière organique, donc tout ce qui est les résidus de végétaux, les feuilles, les plantes, les micro-organismes.
Ouais.
C'est la décomposition de ces matières-là qui va teinter l'eau vers le jaune ou le brun. Des fois même, ça va donner une teinte un peu boisée ou rougeâtre dans certains ruisseaux.
OK, mon Dieu.
Ah, ouais. Puis, si on est dans des secteurs plus de conifères là, ou de tourbières, ben, l'eau peut être carrément presque noire visuellement.
OK.
Sinon, ben toujours ce même phénomène de décomposition-là va aussi produire des matières grasses. Ça, c'est moins connu. Donc, une espèce de gras qui flotte sur l'eau comme de l'huile, dans le fond.
OK. Ça, c'est inquiétant ou pas?
Ben non, c'est naturel. Puis en fait, c'est ça.
Parce que moi, si je vois ça, je vais penser que c'est du gaz, tu comprends? Puis là, je vais être inquiet et j'aurai pas le goût d'y aller, on s'entend.
Ouais, mais là, on parle d'une huile qui est pas vraiment visible, mais
okay.
Elle va se manifester. C'est, dans le fond, c'est ce qui explique la mousse, là, la fameuse broue.
Ah, OK.
Qui se forme au pied des chutes, là. C'est que dans le fond, quand il y a du vent ou du brassage...
C'est pas parce qu'il y a une tonne de grenouilles puis de crapauds, là.
Non, okay. C'est pas de la vape de crapauds, c'est
okay,
ça.
C'est bon.
C'est juste dû, là, que quand il y a du vent ou du brassage, ben l'air se mélange facilement, là, avec cette petite couche un peu huileuse, là, qui est en surface. Ça ressemble un peu à du savon, chimiquement, là.
Okay.
Ça se ressemble. Puis à ce moment-là, ben c'est ça qui crée les bulles de mousse qu'on voit, là, au pied des chutes.
OK.
Puis... Une dernière, là, parmi les substances dissoutes, ben, il y a aussi les gaz.
Les gaz.
Ben oui, les gaz, là, comme les gaz dans l'air.
Puis comme l'oxygène.
Oui, comme l'oxygène. Puis celui qui nous intéresse le plus, ben, si tu viens de le nommer, dans le fond, c'est l'oxygène. C'est le plus important. Fait que la plus grande source d'oxygène qu'on trouve dans l'eau, ben, ça provient directement du contact avec l'air. Donc, c'est le même air qu'on respire, autrement dit, là, que les poissons vont utiliser, là, le même oxygène.
On partage ça, nous autres.
Oui. L'oxygène de l'air, là, c'est lui qui va se retrouver en partie dissous dans l'eau. Fait que quand il y a des vagues, quand il y a des rapides, il y a une partie de l'oxygène de l'air qui va se retrouver dans l'eau, un peu comme dans les gaz dans une boisson gazeuse.
Ah, je ne m'attendais pas à ce parallèle-là aujourd'hui. OK, pourquoi pas?
Donc, mais la grosse différence, c'est que dans l'eau, il y a pas mal moins d'oxygène dissous que dans l'air.
Évidemment.
T'aurais-tu une idée, Patrick, toi, c'est quoi la différence d'abondance d'oxygène dans l'eau comparativement à dans l'air, mettons? Deux fois moins, trois fois moins?
Est-ce que je peux appeler un ami? On n'a pas le temps.
Mais dans l'eau, il y a à peu près 30 fois moins d'oxygène que dans l'air.
Oh!
C'est que 30 fois moins, là, si on pense à nos poissons, là, qui, bon, eux autres, ils respirent avec des branchies.
Ouais.
Faut que ça soit performant en titi parce que.
Ouais, il faut être efficace.
C'est pas mal plus. Mettons que l'oxygène, tu le cherches, là, à 30 fois moins que dans l'air. Fait qu'eux autres, ça fonctionne en continu, hein. Ils font passer l'eau à travers leurs branchies en continu.
Okay.
Fait que c'est assez performant.
OK. OK. Tu vois, tantôt, j'ai évoqué mon chum Carl Champagne, puis Carl, s'il avait fait cette entrevue-là avec toi, il aurait allumé sur la boisson gazeuse. C'est plate, mais c'est comme ça. Est-ce que ça fait un effet un peu de boisson gazeuse? C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, ta boisson gazeuse, elle est effervescente, puis il y a du gaz. Est-ce que ça fait le même genre d'effet avec l'eau?
Ben oui, en fait, puis c'est même un peu un problème parce que pour les gaz, dont l'oxygène, qui est bien nécessaire, comme on le voit pour les poissons, ben il faut que l'eau soit froide pour conserver les gaz dans l'eau.
OK.
C'est une propriété de l'eau, là. Donc, si elle devient chaude, ben l'eau dégaze. Autrement dit, là, exactement comme une canette de liqueur, ben c'est comme si l'eau va devenir flat.
Qu'est-ce qu'on entend par chaud? Est-ce que ça veut dire donc que l'été, là, dans le pic de la chaleur, c'est plus dur pour les poissons?
Exactement. C'est pour ça que des poissons comme la truite vont avoir tendance à aller plus au fond ou encore là, rester proche des ruisseaux qui sont plus froids parce que l'oxygène va être plus abondant dans l'eau qui est froide.
OK. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Effectivement, ils peuvent aller se cacher plus bas puis ça va être beaucoup plus froid. Fait qu'il y a quand même une solution. Donc, j'imagine que si on veut arriver à une conclusion, ça veut dire que si on veut maintenir un habitat qui est stable, qui est sain, puis qui est bon pour les poissons, entre autres, faut que notre eau reste froide. Donc, il faut... Là, on va embarquer dans un débat non-stop, mais il faut essayer d'éviter le réchauffement de la planète en partie.
Oui, ça serait une bonne idée, puis... C'est très pratico-pratique. Là. On peut commencer par garder des arbres là, au bord de l'eau, puis même dans l'eau, s'il y en a qui sont tombés, pour conserver de l'ombre qui va garder l'eau.
Ah, ben oui. OK. Donc, l'ombre est notre ami, clairement.
Ben oui. Donc, on garde nos arbres, tout va bien aller.
Et ce nouvel ami de la chronique environnementale, eh ben, c'est Pierre-Étienne Drolet, biologiste et coordonnateur de projet au COBALI. Merci, Pierre-Étienne.
Ça fait plaisir. À la prochaine.